Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes des élèves du lycée à Médégasque de la classe de 2MRC4. Aujourd'hui, nous allons aborder une technique de manipulation utilisée dans les médias. Il s'agit de la polarisation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la polarisation? Il s'agit d'une stratégie qui amplifie les divisions d'une société. Elles opposent deux camps, les « nous » contre « eux ». Chacun défend son opinion en misant sur des émotions fortes pour étouffer le débat rationnel sur différents sujets comme l'écologie ou la politique, etc. Plusieurs élèves vont partager leur point de vue fictif pour illustrer la polarisation à partir de différents sujets. Ils utilisent un rôle pour les besoins du projet pédagogique et ne partagent pas forcément ses opinions.
Bonjour, bienvenue dans le studio Flex Radio. Aujourd'hui, nous allons débattre sur les côtés sombres du mariage.
Nous allons accueillir nos deux invités qui vont débattre sur le mariage forcé. Inès qui défendra le contre et Olivia qui défendra le pour.
Bonjour.
Bonjour.
Donc pour commencer, je voudrais savoir vos arguments et pourquoi vous êtes pour, parce que ça me semble inhumain.
Alors moi, déjà, je suis pour par rapport aux traditions.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les traditions, ça se fait de génération en génération, donc il ne faut pas tuer la tradition.
D'accord. Mais du coup, ça veut dire que vous êtes totalement pour le fait que la femme soit inférieure à l'homme ?
Oui. Pas vous ?
Donc pour vous, les femmes et les hommes ne sont pas du tout égaux ?
Pas vous ?
Bah non, pour moi la femme est totalement du même niveau que l'homme,
Pourquoi?
C'est totalement normal.
Pourquoi?
Parce qu'elle a les mêmes droits, elle peut travailler, elle peut avoir un métier comme lui. La femme est même plus forte, on va dire, elle porte des enfants, elle accouche, elle fait des tâches ménagères, plein de choses. Tout ça que l'homme ne peut pas faire, on est bien d'accord.
D'accord, mais la femme ne peut pas travailler dans plusieurs pays, elle ne travaille pas, c'est pour ça que le mariage forcé existe.
D'accord, elle ne peut pas travailler, c'est une chose,
oui.
Mais en quoi le travail et le mariage forcé ont un lien?
Pour enrichir la famille d'argent.
D'accord, d'argent. Donc ça
oui.
veut dire que, si je comprends bien, ça ne vous dérangerait pas, par exemple, qu'on vous échange un chameau, un âne pour de l'argent pour votre famille?
Pour ma famille, ça ne me dérangerait complètement pas.
D'accord. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi? Parce que si je me dis, si vous avez un métier, si vous faites des études, vous travaillez plus tard, vous pouvez gagner un salaire. Donc vous allez aider votre famille, mais sur du long terme.
Non, parce que dans des pays, c'est compliqué de travailler, comme l'Afghanistan. C'est très compliqué de travailler, donc c'est pour ça que le mariage forcé a été restauré dans plusieurs pays, comme l'Afghanistan.
D'accord, mais là, on parle en France. On
non,
est en France,
en France le mariage forcé
en France,
est interdit.
Oui, c'est interdit.
Je suis pour
oui,
le mariage forcé.
Oui, vous êtes pour, mais moi, je suis totalement contre, en fait. Parce que pour moi, la femme a le droit de faire ses propres choix. Pourquoi elle ne devrait pas faire ses propres choix?
Parce que l'homme est supérieur à la femme.
Mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Il y a
non,
un consentement, à ce que je sache.
Non.
Maintenant, si la femme n'est pas consentante, vous savez que dans de nombreux pays, certaines femmes se font marier à des hommes de 30 ans. Et elles ont 16 ans, 6 ans. Vous trouvez ça totalement normal que certains hommes ont des rapports avec des filles qui
oui,
ne sont même pas majeures qui ne sont même pas consentantes?
Mais c'est pour rassurer le papa.
Mais en
de
quoi rassurer
fille.
Le parent?
Parce que...
Allez-y.
Oui, je vais continuer, merci.
Oui.
Voilà. Donc du coup, c'est pour rassurer le papa que sa fille, elle se marie avec une personne qui est totalement de confiance, parce que des fois, les hommes ont une double face.
D'accord, ok, pas de souci. Donc
oui.
À ce que je sache, on fait des enfants, d'accord? On doit avoir un minimum confiance en eux, on est d'accord sur ça, vous êtes
non,
d'accord?
Non, parce que
ah,
des
vous
n'avez
pas confiance en eux. D'accord,
des
d'accord.
Enfants, on n'a pas confiance en eux. Mes
okay.
garçons, j'ai confiance en eux, mes filles, non.
D'accord, bah déjà, ça va pas du tout. Moi, je suis totalement contre. Mais bon, du coup, moi, je vais vous dire la vérité. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que... J'ai oublié ce que je voulais dire.
Ok, vous n'avez pas d'argument. Passons
mais
au
quel
prochain.
Mais quel argument? Quel
passons,
pas d'argument?
Passons
y a, non,
au prochain.
Il n'y a pas d'argument, d'accord?
Okay.
Vous faites des enfants pour avoir confiance en eux, ok? Et
non,
là,
non,
bah
pas
si,
forcément,
bah
pas
si,
forcément.
Bah
pas
si,
forcément.
C'est totalement normal.
Pas forcément.
Mais vous êtes prêts à marier votre femme, à marier votre fille, et qu'elle ait des rapports avec des hommes de 30 ans. Mais pour vous, c'est totalement normal. Mais allez voir la fille plus tard, comment elle va grandir. Il y aura des séquelles, hein. Donc voilà. Et là, vous avez des arguments peut-être?
Bah,
des
bien
arguments
sûr que oui, parce que l'homme, dans tous les cas, si c'est un mariage forcé ou pas forcé, dans tous les cas, l'homme, on ne sait pas si il est bien ou pas. Donc,
mais
c'est...
oui, mais
donc...
si vous avez confiance, votre fille n'est pas bête. C'est pour toute une
on
vie, c'est
pas
un amour
nous,
de
nous,
jeunesse, à ce que je sache.
Nous
donc
ne
elle
savons
va prendre
pas.
Le bon.
Nous
d'accord
ne savons pas.
Je suis pas d'accord. Bon,
allez,
moi,
stop, on se calme.
Moi, j'ai une autre question à vous poser, Clara et Lola. Vous, la polygamie, vous en pensez quoi?
Alors, moi, je suis totalement pour la polygamie. Par exemple, c'est traditionnel dans certains pays d'être polygame.
Alors moi, je trouve ça totalement horrible, ce que vous pensez. Déjà, ça peut créer de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Très, très, très beaucoup d'inégalités. En plus, déjà, la polygamie, c'est interdit en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Oui, mais je ne parle pas forcément d'en France. Il y a dans certains pays, la monogamie, ce n'est pas le seul modèle historique de couple. Et la polygamie, elle fait partie de nombreuses traditions culturelles dans certains pays, comme d'accord. En Inde, par exemple.
D'accord, mais ça peut créer beaucoup de conflits dans le foyer.
Par rapport à qui ?
Par rapport aux enfants, aux deux femmes.
Oui, mais polygame ne veut pas forcément dire avoir des enfants.
Polygame, du coup, le but, c'est qu'il y ait deux femmes. Ça vous dérangerait pas, vous, que votre mari a une
non,
autre femme ?
Non, mais là, en fait, on parle pas de moi, on parle des gens polygames. Et si
vous êtes pour, c'est que vous accepteriez d'être polygame.
Oui, mais
donc, voilà.
Si les deux parties sont consentantes, je vois pas pourquoi il y aurait de problème, parce que à partir du moment où vous êtes
polygame... Et pour
polygame,
les enfants, vous avez pensé aux enfants ?
Oui, mais il n'y a pas forcément d'enfants dans les couples polygames.
Là, on parle que s'il y aurait d'enfants.
Non, mais on parle pas d'enfants, aurait des enfants. On parle de la polygamie.
Mais
en fait.
Le but, c'est de faire des enfants. Parce
non,
que
pas
le,
forcément.
Si, le mari...
Non, pas forcément. Si vous mariez, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des enfants.
D'accord, mais...
Vous avez le droit de faire votre mariage
mais
sans
vous parlez de tradition, mais la tradition, c'est d'avoir des enfants.
C'est pas une tradition d'avoir des enfants.
Hein. Bah si.
Alors là, pas du tout.
Bah si.
Alors là, pas
bien
du tout.
Bien sûr que si.
Non. Okay. Il y a des femmes
qui ont 50
ans qui n'ont pas
d'enfants. Et ça peut faire beaucoup de jalousie. Ça peut faire beaucoup de jalousie.
Par rapport à...
aux deux femmes. Ouais. Imaginez par exemple, le mari il peut en préférer une autre. L'autre, elle peut être blessée, elle peut se sentir mal aimée.
Non, parce qu'à partir du moment où les deux parties sont consentantes, il n'y a pas de préférence.
Non, moi je trouve que le mari, pas du tout. Le mari il peut avoir des préférences sur le long terme. Il peut avoir une préférence pour une femme que pour une autre.
Des préférences
OK.
Bah non.
Si,
non,
si.
Non. Attends, okay. Stop.
Et aussi par rapport c'est un débat sans fin, enfin. Franchement. Donc moi, je vous dis merci
de nous avoir écoutés. Et à bientôt.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre questionnement sur le don d'organes. Aujourd'hui, sur mon plateau, on va recevoir plusieurs invités qui vont débattre sur le sujet. Attendez-vous à beaucoup de divertissements. On accueille le premier invité, Al-Assad. Que pensez-vous du don d'organes ?
Je suis contre. En tant que donneur, je n'aimerais pas donner un organe à un inconnu. Rendez-vous compte, se faire ouvrir le corps pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est intolérable.
Mais t'as rien compris, c'est l'objectif d'un don d'organes. Informe-toi avant de parler, c'est pas croyable.
C'est ma décision, c'est mon choix, je veux plus rien entendre, c'est mon corps, c'est moi qui décide.
Autour au second invité.
Moi, je suis contre parce que si j'étais une personne qui reçoit, je m'inquiéterais de l'identité de mon donneur. Imaginons que mon donneur soit gravement malade ou un fumeur. Il est hors de question que l'on me soigne avec un organe défaillant.
Et alors vous, j'ai jamais vu plus bête. Et si vous pouvez vous informer, vous vous rendrez compte que jamais on ne donne d'organes défectueux.
Mais ça ne veut pas dire que l'on doit accepter. Ça m'énerve qu'on n'accepte pas ce ressenti.
Maintenant, Louisa va s'exprimer sur son sujet.
Je suis complètement pour. Si j'étais une donneuse, je serais heureuse de prolonger la vie d'une autre personne. Une fois morte, mes organes ne servent plus à rien, autant qu'ils soient utiles à d'autres.
Pour finaliser ce débat, je vous remercie mes invités d'avoir répondu au sujet du jour. On n'a pas réussi à trancher.
Bonjour, ici le lycée Ami Degasque. Aujourd'hui, nous allons débattre sur l'immigration. Pour l'immigration, Emiran et Clément. Contre l'immigration, Yacine et Noah.
Bonjour, comme vous l'a dit mon camarade, ici la radio du lycée Ami Degasque. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très sensible, l'immigration. Pour cela, nous avons invité plusieurs invités pour débattre, pour ou contre l'immigration.
Pour le premier sujet, on va débattre sur les égalités entre les natifs et les immigrés. Bah déjà, les immigrés travaillent pour les Français et ils devraient avoir les mêmes droits que les natifs.
Certes, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas Français. En soi, ils travaillent pour la France, c'est déjà bien, mais ils ne le sont pas. Oui, ce sont des réfugiés.
Oui, mais ils travaillent pour la France, ils payent des impôts, ils font à peu près tout comme des Français.
Oui, mais ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas français, c'est qu'ils
oui,
ne peuvent
pas
bénéficier de nos
oui.
chères aides.
Oui, pourquoi ils ne devraient pas avoir les mêmes droits alors qu'il a quand même, enfin, qu'il paye quand même les impôts et qu'il travaille pour la France ?
Mais parce qu'ils ne sont pas français, cela va de soi. Deuxième
sujet, pour l'immigration. Le besoin de travailleurs pour l'économie du pays. Plusieurs Français ne veulent pas faire des travaux comme éboueurs ou ramasser les poubelles. Donc des immigrés se portent titulaires pour faire ces travaux. Sans émigrer, ces travaux ne seront pas réalisés, donc une chute probable de l'économie.
Bah, moi, je pense le contraire, déjà, parce que même sans les immigrés, la France pourrait très bien s'en sortir. Par exemple, il y aurait moins de poubelles à jeter sans immigrés.
Exactement.
Je te coupe, mon cher Noah. Je ne pense pas que des Français veulent réaliser des métiers comme éboueur. Donc, pas d'éboueur, tout simplement, la propreté n'est pas au top. Et si la propreté n'est pas au top, des citoyens voudraient, je pense, quitter le pays. Donc, une chute de citoyens qui va probablement mener à une chute de l'économie française également.
Oui, mais si un peu tous les Français y mettent un peu du leur et qu'ils ne salissent pas trop, en quoi on aurait besoin ?
Justement, c'est pour ça que les immigrés travaillent dans ces métiers. Parce que des Français ne respectent pas la France qui...
Et même, pourquoi un Français ne pourrait pas faire éboueur ?
Exactement. Bah, mon cher Noah, justement, le sujet vient de là. C'est les Français ne veulent pas faire ce travail, ce qui ramène à des immigrés de réaliser...
Et d'où sort l'information ?
Bah, moi, par exemple, aujourd'hui, je me promenais dans la route, j'ai vu un éboueur et c'était un immigré. C'était pas un Français.
Et
la plupart du temps, c'est des immigrés. On le voit, il y a des statistiques que je pourrais pas sortir actuellement car... Nous sommes en direct.
Oui, mais un Français a toutes les capacités pour faire ce travail aussi.
Exactement. Oui, mais il ne le réalise pas, justement.
Donc, qu'est-ce qui différencie un immigré qu'un natif ? Mais oui. Un natif pourrait très bien faire ce genre de travail, il pourrait même le faire mieux.
Bon, passons au contre.
Les immigrés sont des casseurs, ils font le bazar. Bon, bah, je vais partir d'un point de départ. En ce qui concerne les immigrés font le bazar, par exemple, je vais prendre... ce qui s'est passé le 31 mai dernier, à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on peut constater que la plupart des personnes sur les Champs-Élysées et qui ont brûlé des voitures, frappé des gens, coursé les policiers...
Je vais vous couper, mon cher Noah, vous venez de défendre un sujet qui parle du Paris Saint-Germain. Je pense que vous supportez cette équipe, je me trompe.
Oui.
Bah, l'équipe que vous supportez, figurez-vous, plus d'immigrés que de Français au final. Vous supportez une équipe où il y a plus d'immigrés que de Français et vous êtes contre les immigrés.
Vous vous éloignez du sujet, très cher. Nous bah parlons. Oui,
franchement, sans immigrés, le Paris Saint-Germain.
Oui, mais franchement.
Non, mais c'est pas, on ne soit pas sur ce genre de débat. Aujourd'hui, nous parlons de l'immigration.
Bon, vous avez.
Nous constatons que la plupart des gens qui dégradent notre très cher pays sont des immigrés. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce sont surtout des jeunes issus d'Afrique, surtout du Nord.
Ok, ben. En France, les personnes qui font ça, c'est également des Français. Et il ne faut pas partir sur le fait que quand un noir, par exemple, fait n'importe quoi, que tous les noirs sont derrière.
Ne mettons pas tout le monde dans le même sac, certes.
Mais justement.
Oui, mais la plupart.
Exactement, bah, même la plupart. Majorité.
Est-ce que, monsieur Noah, vous pouvez me sortir des statistiques, s'il vous plaît ?
Je ne saurais sortir des statistiques.
Si on fait une photo des Champs-Élysées cette nuit-là, franchement, c'est pas très clair.
Ok,
de
bah d'accord, bah d'accord. S'il n'y a pas d'immigrés dans les Champs-Élysées, il y a... 60% de moins de supporters, il n'y a plus d'argent pour Paris Saint-Germain.
Mais non, pas forcément. Dans les années 90, à la naissance du PSG, il y avait beaucoup de supporters. Et par exemple, la tribune Boulogne, la plupart des supporters, ils viennent de France.
Bon, passer pour
ils sont natifs.
Le deuxième sujet, ou le contre.
Les immigrés sont des profiteurs qui abusent du système français. Je dis ça, cela, car nous constatons, de nos jours, de plus en plus de familles, surtout... de couleur de peau assez mélanineuse, qui font 12 enfants pour profiter des aides sociales. En effet, notre bon pays a pour fait de donner de l'argent qui appartient techniquement à l'enfant. Et les immigrés, apprenant qu'il y avait de l'argent à se faire, en profitent pour faire 12 enfants qui ne vont pas s'en occuper et qui vont par la suite faire n'importe quoi. C'est de là d'où naissent tout.
Monsieur Yassine, est-ce que vous aurez des exemples ?
Je ne saurais dire des exemples, et je ne veux offenser personne, mais je peux le constater, et personne ne pourra me dire le contraire.
Moi, j'ai un exemple. Bah, prenons en compte un exemple. Padoua, elle a 12 enfants. Elle profite bien des allocations.
Ok, je vais vous couper, monsieur. Les chères allocations que vous avez citées, s'il vous plaît, les chères allocations que vous avez citées, on a reçu une famille aujourd'hui et les allocations, ils répondent une fois sur deux. Comment vous pouvez nous expliquer ça ?
Bah, tu reçois un virement chaque mois, très cher.
Bon. La conclusion. Merci à vous d'avoir débattu sur ce sujet qui est très sensible en ce moment. Et on espère vous avoir donné des idées. Merci de nous avoir écoutés.
Aujourd'hui, on se projette dans le futur en vous parlant du sujet qui nous concerne beaucoup, notre génération. Beaucoup de jeunes utilisent un smartphone tous les jours. Pourtant, certaines personnes pensent qu'il faudra interdire les smartphones au moins des 15 ans pour protéger les enfants. Alors, Aliza et moi, nous sommes pour l'interdiction du smartphone avant 15 ans. Et Nazira et Charles sont contre l'interdiction pour le smartphone avant 15 ans. Tout d'abord, nous savons tous que le smartphone peut distraire les élèves en classe. Par exemple, quand les élèves reçoivent des messages ou des notifications, ils regardent leur téléphone au lieu d'écouter le professeur. Cela peut rendre l'apprentissage plus difficile.
Oui, mais d'un côté, le téléphone, ça peut permettre aux élèves de contacter leurs parents. Ou imaginons, il y a quelque chose de très grave qui se passe, ils peuvent leur envoyer un message. Ou aussi, le téléphone, ça ne sert pas forcément à se distraire tout le temps en classe. On peut l'utiliser pour apprendre à mieux connaître la vie professionnelle. Enfin, utiliser l'ENT, envoyer des messages à ses camarades pour savoir les cours, etc. Mais en fait, le problème, ce n'est pas le téléphone, mais ça dépend de l'utilisation de ce qu'on en fait.
Oui. Donc, si on utilise le téléphone en classe, il peut faire des photos et des trucs des professeurs, des camarades.
Oui, justement, mais ça dépend de l'utilisation.
Donc, c'est mieux de ne pas utiliser.
Oui, c'est mieux de ne pas utiliser le téléphone parce que je suis d'accord que le téléphone, il peut servir à l'ENT, des choses comme ça. Mais l'élève, il peut très bien rentrer chez lui, il a un ordi. Enfin, il y a d'autres moyens, il y a d'autres appareils que le téléphone, en fait. Et surtout qu'ils n'ont pas la notion de la maturité d'avoir ce téléphone, en fait. Du coup, ils sont là, ils prennent leur téléphone, ils peuvent même par exemple, retirer des personnes en photo sans leur autorisation, alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc, autant l'interdire.
Justement, faut leur apprendre à bien utiliser le téléphone. Pour ce qui est du téléphone à l'école, du coup, une fois sortis de leur école, ils peuvent contacter leurs parents, parce que imaginons s'il y a un problème ou une urgence qui doit rentrer plus tard que prévu, il peut appeler ou envoyer un message à ses parents.
Oui, mais il y a la vie scolaire pour ça, non?
Oui,
justement, s'il se trouve à l'extérieur, comment il va faire?
Il a des amis, il y a des gens qui peuvent passer, qui peuvent passer le téléphone.
Oui, mais justement, il y a certaines personnes, ils sont beaucoup plus mieux tout seuls. Enfin, c'est pas tout le monde qui a des amis non plus. Du coup, imagine, t'es tout seul dehors, tu te fais agresser. Là, tu vas pas courir à aller demander de l'aide à quelqu'un. Enfin, si tu le fais, mais le premier réflexe que tu fais, c'est d'appeler quelqu'un pour t'aider.
Oui, mais le téléphone, c'est pas la solution, en fait. Il y a bien d'autres moyens pour faire ça. C'est pas que le téléphone, en fait. C'est pas une notion, oui, il faut avoir un téléphone parce que je suis en danger. Non, le truc, c'est qu'il y a bien d'autres moyens. Si les parents sont organisés, s'ils sont intacts, je pense pas qu'il y aura des problèmes à l'extérieur. Et puis, comme l'a dit ma collègue, il y a la vie scolaire, il y a tout. Enfin, c'est pas un téléphone qui va sauver la personne.
Oui, mais d'un côté, on sait jamais ce qui va arriver dans la vie.
Oui, mais dans tous les cas, le téléphone, c'est pas la solution.
Mais les parents peuvent venir les chercher, leurs enfants.
C'est une question d'organisation, en fait. C'est pas parce que je vais te donner un téléphone que tu vas être sauvé. Pas du tout.
Ouais.
Au contraire, ça peut aider.
Non, mais au contraire, ça peut même pas aider.
Ça aide pas. Le téléphone n'aide pas parce que il aggrave en fait la sécurité en classe pour commencer. Déjà qu'il y a de l'harcèlement à l'école, et en plus si on rajoute le téléphone, ça va faire du cyberharcèlement. Donc il y a du danger dans les deux côtés. Alors vaut mieux privilégier un côté et dire que ok, il y a de l'harcèlement à l'école et on arrête le téléphone avant 15 ans, donc on supprime le cyberharcèlement, que de mettre les deux. Ça fait plus de danger. Les gens qui ont moins de 15 ans, ils n'ont pas la notion en fait de ce qu'ils font, en fait. Donc autant l'interdire, le téléphone.
Oui, mais d'un côté, le téléphone, ça sert pas forcément à créer des dangers pour des élèves. Enfin, le téléphone, ça sert pas.
Et même pour la santé mentale, le téléphone, c'est... Demain, tu lui donnes un téléphone à quelqu'un qui a moins de 15 ans. Il prend le téléphone et tout, mais demain, s'il passe toute la nuit dessus, il revient à l'école, déjà, ça bousille son sommeil, ça veut dire qu'il sera moins concentré en classe et il peut même tomber gravement malade à cause de ça.
Après, il y a des limites de temps.
Oui, mais il y a des limites de temps, mais tu crois
ça
que...
Ça ne veut pas dire qu'ils vont respecter.
Exactement.
Justement, c'est des parents qui doivent confisquer leur téléphone avant de dormir.
Donc, il faut mieux de ne pas lui donner le téléphone.
Non, justement, il faut mettre des limites, justement, ce qui peut permettre une bonne utilisation du téléphone.
Mais tu crois que, par exemple, les gens qui tuent leurs parents à cause d'un téléphone, tu crois que c'est parce que les parents ont décidé de leur enlever leur téléphone pour dire qu'il y a une limite de temps,
certaines personnes, ils voient ça comme une frustration, donc ils vont jusqu'à à faire du mal aux autres, jusqu'à tuer leurs propres parents pour un téléphone.
Eh bien justement, il faut apprendre à combler cela par autre chose et leur montrer qu'il n'y a pas que le téléphone dans la vie, bien qu'ils peuvent l'utiliser.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont respecter ça, ils vont écouter.
Justement, tout est une question d'éducation envers les enfants.
Mais les enfants font moins d'activités physiques. Quand ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ils font moins de sport ou des jeux dehors.
Bah justement, il faut les proposer des activités. Oui, il faut pas toujours les rendre. Bon, en fait, vous voyez, le téléphone, ça dépend de l'usage de ce qu'on en fait. Si depuis tout petit, tu es habitué avec un téléphone, forcément, bah, plus tard, tu peux pas t'en séparer.
Mieux pas le donner, le téléphone.
Bah si, il faut leur donner un téléphone. Il faut pas toujours voir le mauvais côté du téléphone.
Oui, mais
le téléphone, ça peut servir à plusieurs choses. Ça veut pas forcément servir à être accro tout le temps, à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films, je sais pas quoi.
Ça, c'est le cas pour l'instant, non ?
Oui, mais le téléphone, en fait, Nazira, le téléphone, en grande partie, genre à 90% de la partie, il sert qu'à faire du mal, en fait. Il
pas
sert qu'à faire du mal. Le téléphone sert qu'à faire du mal. Imagine, demain, tu donnes un téléphone à quelqu'un qui a moins de 15 ans, il devient dépendant de ça. Sans ça, il ne peut pas apprendre, il ne peut rien faire. On fait comment ? Dis-moi.
Tu leur proposes autre chose.
Il faut faire la part des choses.
Ça va régler les trucs ?
Bah oui.
Justement.
Ça ne va pas régler le problème, en fait. Non, ça ne réglera pas le problème.
Tu le proposes quoi ?
Des manuels scolaires.
Il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas que le smartphone, en fait. Il y a plusieurs solutions. On ne peut pas tout le temps passer par le smartphone. Non, c'est pas ça la solution. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens d'apprendre.
On n'a pas dit qu'il fallait tout le temps passer par là, mais juste, faut pas interdire le téléphone aux enfants parce que c'est mieux, tu leur apprends à gérer tout ce qui se passe.
Mais s'ils veulent pas comprendre, on fait comment ?
Oui,
mais s'ils veulent pas comprendre...
On fait comment ? On l'interdit dans ce cas-là ?
Non.
Bah on fait comment ?
Bah tu l'interdis pas, mais tu lui proposes des limites.
Bah si, je vais l'interdire.
Non.
Mais il va pas écouter.
Mais s'il fait le mal, je fais comment ? Je dois le laisser faire, je dois sourire, c'est ça ?
Bah non, justement, tu lui donnes des conseils,
Mais s'il veut pas, et s'il ne veut pas de mes conseils ?
Bah s'il veut pas, il apprendra.
Non, il va pas apprendre.
Il apprendra.
Non, il apprend. On apprend de ses erreurs. Oui, on apprend de ses erreurs, mais pour éviter... de faire certaines erreurs, on préfère interdire la chose.
Mais justement, il ne faut pas interdire, il faut qu'il fasse l'erreur, il se rend compte de son erreur, et comme ça, plus tard...
Oui, mais s'il recommence, on fait comment ?
Tu lui donnes le téléphone et il refait l'erreur ?
Oui, on fait comment ? Bah, dans ce cas-là, on fait comment ?
Il ne pourra pas parce qu'il va retenir...
Autant pour pas qu'il fasse l'erreur, autant l'interdire tout court. Bon, on va passer on va finir par la conclusion. Alors, pour finir, l'interdiction du smartphone avant 15 ans dépendra du point de vue des parents, parce qu'ils ont l'entière responsabilité de leur enfant.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes sur la chaîne France TV. On va vous parler des voitures thermiques ou électriques et de la hausse des prix due à la guerre. Nous allons accueillir aujourd'hui Rimas, Laurie, Anisha, Madeleine qui vont débattre sur ce sujet. Anisha ?
Je suis pour les voitures électriques car ça coûte moins cher que la voiture thermique. Par exemple, en ce moment, le coût de l'essence en raison de la guerre au Moyen-Orient a explosé.
Les voitures thermiques sont moins chères que les voitures électriques. Comme on peut le constater, la voiture Renault 5 est au prix seulement de 19 990 euros. Tandis qu'en électrique, elle est à 24 990 euros. Donc 5 000 euros de plus cher.
Au contraire, la voiture électrique est plus rentable car le prix de l'électricité est stable.
En plus de ça, on ne peut même pas recycler la batterie de la voiture électrique pour l'instant, donc ça pollue.
Mais les voitures thermiques causent plus d'incidents que les voitures électriques, de 5 sur 100 000 par an, tandis que les voitures thermiques sont de 25 à 30 000.
C'est beaucoup plus facile et rapide de mettre du carburant plutôt que faire recharger sa voiture électrique et qu'il y a beaucoup plus de stations-service. Et en plus de ça, la technologie est beaucoup plus maîtrisée depuis des années et il y a un choix plus large de modèles.
Mais les voitures thermiques polluent dû au dioxyde de carbone tandis que les voitures électriques n'en produisent pas.
Oui, mais les voitures thermiques ont une plus grande autonomie, contrairement aux voitures électriques qui n'ont pas une grande autonomie.
Mais l'entretien est plus facile, il y a moins de pièces à changer.
Mais les voitures thermiques tiennent plus en longévité, or les voitures électriques ne tiennent pas dans le temps.
Pour les voitures électriques, il y a des bornes de recharge directement chez soi.
Les voitures thermiques ne font pas de bruit, Non, les voitures thermiques font du bruit, ce qui permet de les entendre au loin, tandis que les voitures électriques ne font pas de bruit. C'est un réel danger pour les piétons. Ils ont un risque de se faire percuter.
En conclusion, les voitures thermiques et électriques sont chacun des avantages et des inconvénients. Les voitures électriques sont plus écologiques et économiques à long terme, tandis que les voitures thermiques restent plus pratiques grâce à leur autonomie et leur facilité d'utilisation. Les choix dépendent donc des besoins et des priorités de chacun.
Bonjour très chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet moderne qui divise, à savoir l'intelligence artificielle. Pour rappel, l'intelligence artificielle est une technologie capable d'analyser des données et d'apprendre à partir de celles-ci pour réaliser des tâches, comme générer du texte ou des images en s'appuyant sur des probabilités. Cette nouvelle technologie est constante évolution et soulève beaucoup d'interrogations et d'inquiétude. Je vous propose d'entrer dans un débat qui opposera deux camps, un pour et un contre. Tous deux vont défendre leur point de vue.
Bonjour.
Bonjour. Oui.
Bon, qui veut commencer ?
Alors, je vais commencer. Je pense que l'IA va nous faire perdre notre notion de l'humanité.
Ah bon, au moins ça va être court parce que là je suis devant clairement quelqu'un qui est bloqué dans le passé et qui n'accepte pas le changement. Bon, ça va être facile de contredire ça.
Voilà. Et moi je suis devant quelqu'un qui nie l'intelligence humaine et qui n'est qu'un flemmard.
Oh, la puissance de l'argument. Vous n'avez pas cerné le fait que l'IA, c'est la porte d'entrée vers la perfection de l'intelligence humaine.
Ah, je vous arrête tout de suite. Je ne vois qu'une porte fermée ou une porte vers la faillite de l'intelligence humaine. La prochaine génération, si elle doit suivre votre pensée, ne saura jamais l'indépendance.
Ouais, non, mais ces outils peuvent être bénéfiques. Mais, par exemple, dans la médecine, ça peut être bénéfique.
Je vous arrête. On n'avait pas besoin d'intelligence artificielle avant pour la médecine.
Oui, mais j'ai dit qu'ils étaient bénéfiques. J'ai pas dit qu'ils allaient les remplacer. Là, vous déformez mes propos, là. Non, vous déformez mes propos, je n'accepte pas ça. Moi, je voulais juste dire que ça pouvait être bénéfique. Ça peut aider, par exemple, dans la médecine, par exemple. Ça peut aider pour chercher des remèdes, voilà, par exemple. L'IA peut aider. Voilà, c'est un outil, évidemment. Mais je tenais à dire, oui, voilà. C'est un outil, évidemment. Moi, ce que je dis, c'est que l'IA, moi, c'est ma position. Peut-être que ça va vous énerver. C'est ma position, je l'assume. C'est que l'IA va remplacer des métiers qui ne sont pas épanouissants. Ça va remplacer plein de métiers dont tout le monde. Enfin, on s'en fiche. C'est très sérieusement, c'est des métiers qui ne sont pas épanouissants pour les gens.
Ah, le voilà. Revenons sur la flemmardise. Tiens, certains établissements ont été construits pour étudier certains domaines que vous voudriez sûrement supprimer pour votre flemmardise, donc de l'argent perdu en soi.
Mais justement, on va pouvoir supprimer les gens qui travaillent que pour l'argent et non pour les patients, et du coup, on aura moins c'était pas le bon mot, mais des parasites, parce qu'il y a des gens qui font que pour l'argent, et du coup, ça dérègle un peu, enfin, ça nuit à l'évolution de l'entreprise, et à chaque fois, l'entreprise, elle perd plus son temps à essayer à régler les bêtises que font ces gens qui ne font que pour l'argent. Et évidemment, ben, vous comprenez bien qu'il y a des gens qui ne bossent que pour l'argent. Enfin, et que vous non, attendez.
Je vous rappelle que vous voulez remplacer les métiers non épanouissants pour un sou, donc forcément de la main d'œuvre.
Mais vous voyez bien, nos jeunes, ils ne savent plus rien faire sans l'IA. Ils sont complètement accros, ils ne veulent plus rien faire, tout simplement.
Cette dépendance va les hébéter.
Non, mais je veux bien, mais les jeunes déjà. Déjà, les jeunes, c'est pas eux les jeunes. Ce qu'il faut les éduquer, c'est les parents qu'il faut éduquer. Donc ça, je vais pas venir là-dessus parce que c'est un autre débat. Mais imaginez ces jeunes qui peuvent assouvir leur soif de connaissance. Hein, parce que l'IA, quand elle est bien utilisée, ça peut les aider à être encore meilleurs que ce qu'ils sont à la base et assouvir leur connaissance. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui vont s'en occuper pour ne rien faire, mais bon, j'ai envie de dire les adultes pareil. Et puis bon, c'est les parents qui doivent faire quelque chose pour ça. Mais simplement, s'il y a des gens qui peuvent faire, ils vont pouvoir se développer plein de connaissances. Je connais plein de jeunes qui disent qu'ils ont connu certaines choses et qu'ils ont appris plein de choses grâce à l'IA. C'est un outil qui peut servir.
Allez, ça part en génie. Tu les as trouvés comment vos arguments? Avec ChatGPT?
Non, déjà, on se voit pas, hein, je suis pas votre ami. Et puis, si votre procédement, c'est de renier tous les changements et nouvelles technologies, cela en dit long sur votre personnalité. Hein.
C'est la voix que vous utilisez, l'IA, dites donc. Hein. Vous devez plutôt utiliser votre cerveau, au final. Enfin, vu votre positionnement, je ne suis pas sûre que vous utilisez beaucoup votre cerveau avant.
Ah, vous aurez bien besoin de l'intelligence artificielle pour combler votre idiotie humaine. Hein. Ça, voilà, je me permets des petites digressions, des petits tacs.
Oui, mais au moins j'aurai encore un petit peu d'intelligence si un jour l'IA disparaît. Votre cerveau aussi, apparemment.
Ah, mais. Non, mais là, franchement, là, ça devient ridicule. Je pense qu'on peut arrêter là parce qu'en vrai, là, il n'y a
plus d'arguments. Vous avez plus d'arguments, monsieur ?
C'est pas qu'on n'a plus d'arguments, c'est qu'on n'a plus envie de répondre à ce genre d'idiotie, là. C'est vraiment le.
C'est vous qui commencez à me contredire, etc. Moi, je vous dis que l'IA, ça ne sert à rien et qu'on a un cerveau, c'est pour l'utiliser.
À l'époque, on s'en sortait très, très bien sans. Pendant des années et des années.
Réfléchissez un peu, non ?
Oui, bah écoutez, moi, j'ai envie de vous dire. Je pense sincèrement que vous. Vous devriez peut-être envisager le fait que votre intelligence humaine, elle n'est pas si irréprochable
ah
que
oui.
ça.
Et c'est qui a inventé la cuillère ? C'est qui a inventé les fourchettes ? On n'a pas eu besoin de ChatGPT pour cela.
Putain, les cuillères et les fourchettes, non mais bravo, hein. Vraiment, là je crois que... Non mais bien sûr.
Et les douches, les toilettes, tout ce qui nie à l'hygiène, hein ?
J'ai jamais dit que l'IA va remplacer l'humain. J'ai dit que c'était un outil de perfectionnement
comprendre.
Et c'était un outil qui pouvait aider... Et j'ai pas dit que ça pouvait écrire.
La manière de vous parler, je le répète encore, toujours ChatGPT, vous parlez uniquement qu'avec ChatGPT. Attention, je vois votre téléphone juste à côté de vous. Donc, franchement, vous êtes vachement culotté, monsieur. En plus, ma collègue juste à côté de moi est en train de dire les termes. Donc, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire plus. Là, on est juste en train de dire des faits, en fait.
Non, mais moi, je tenais à dire quand même que moi, vous me reprochez que. Apparemment, je lis mon téléphone, hein, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais je tenais à dire que vous avez vos petits textes devant vous. Bon, voilà.
Fait main, oui, avec notre cerveau, nos neurones.
Ce n'est pas écrit par un... Et ce n'a pas été imprimé, donc en soi...
Le mien non plus, mais au moins, je ne suis pas bouché.
Bouché ?
Bouché, je ne suis pas bouché. C'est-à-dire que... Ah, si vous ne savez même pas, ça veut dire quoi le mot bouché ?
Il va demander la définition à ChatGPT. Qu'est-ce qu'il y a un bouché ? Pardon, je vais vous aider. Attendez, vous avez ChatGPT Plus ? Ça se paye.
Oh là là, vous êtes vraiment... Là, on est sur du sophisme, du niveau... Je pense que là, on est sur un sophisme très, très élevé. Là, je pense que j'ai même plus besoin de répondre. Là, en fait, c'est juste
très
de l'insulte.
Très bien, ne répondez plus, ce sera parfait.
Bon, je vous arrête là, mes chers invités, parce qu'on voit bien que le débat, vous n'êtes pas d'accord.
Sans déconner.
Pour conclure, à travers cet épisode, on a essayé de mieux comprendre ce qu'est la polarisation et comment elle influence nos opinions, nos échanges et notre quotidien. Les arguments extrêmes des élèves ont montré que cette technique de communication masque le vrai débat et ne permet pas d'engager une vraie réflexion. Chacun peut défendre son propre point de vue sans se fermer au débat et refuser les arguments adverses. On espère que ce podcast vous aura fait réfléchir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.